Calade 100.9.
L'info locale et régionale.
Présentée par Sylvie Rosier.
La population d'ours est encore en augmentation dans les Pyrénées en 2023. Si c'est une bonne nouvelle comptablement parlant pour les défenseurs de l'ours, il y a un bémol niveau génétique avec des risques de consanguinité. Expliqué Alain Rennes, le président de l'association Pays de l'Ours. Extrait d'un article de France Bleu Occitanie. Selon l'Office français de la biodiversité et le réseau Ours Brun, 16 ours sont nés l'année dernière et 83 ours au total ont été aperçus. Mais le brassage génétique est toujours préoccupant et on est encore loin du seuil minimal de viabilité de l'espèce. Si le taux de renouvellement de la population ursine avoisine les 11%, ce qui est tout à fait dans les normes, la principale crainte pour l'avenir de l'espèce réside toutefois dans l'isolement géographique de certains individus. En plus du sang neuf que pourrait apporter de nouveaux lâchers, il serait opportun de faciliter l'accès à la reproduction des individus génétiquement différents. L'État devrait redoubler d'efforts pour réduire les risques de mortalité encourus par les individus les plus sensibles, en améliorant leur suivi et en interdisant les battues de chasse dans leur zone de présence, confie ASPA, l'Association pour la protection des animaux sauvages. La chasse, rappelle-t-il, extrait d'un article, est l'une des premières causes de mortalité des ours dans les Pyrénées, avec au moins 5 individus tués par les fusils depuis 1994. Redonnons sa place à l'ours dans les grands massifs de France.
L'info locale et régionale, c'est tous les jours sur Calade.
Calade, ma radio.
Le frelon asiatique est facilement identifiable, plus foncé, il présente des marques oranges sur la face et les derniers segments de l'abdomen. Sa tête est noire, sa face jaune orangée et ses pattes jaunes à l'extrémité. Mesurant environ 2 à 3 cm, il est plus petit que le frelon européen à la robe jaune rayée de noir. Le frelon asiatique ou frelon à pattes jaunes fait beaucoup parler de lui et porte bien son nom. Hugues Mouret, entomologiste naturaliste, nous éclaire sur une espèce désormais chez elle.
Oui, parce qu'en réalité, tous les frelons de la planète viennent d'Asie. Les frelons, c'est ce qu'on appelle Vespa en latin, hein. Vespa crabro, c'est le frelon qu'on a en Europe, que tout le monde appelle le frelon d'Europe, mais qui est arrivé il y a plusieurs milliers d'années, probablement transporté par la route de la soie et par nos soins, donc déjà, ce qui est le cas aussi du frelon à pattes jaunes. Et c'est donc pour ces deux raisons, d'abord parce que tous les frelons sont asiatiques, et ensuite parce qu'il y a une forme de stigmatisation à appeler quelque chose asiatique, comme si tous les problèmes venaient de là-bas. Donc pour ces raisons-là, on préfère l'appeler frelon à pattes jaunes, puisque c'est ça qui le distingue du frelon qu'on a en Europe. Le bout des pattes sont jaunes, alors que le frelon européen installé depuis longtemps a des pattes rousses. Mais après, les couleurs sont très différentes et on peut les distinguer comme on distingue un cheval d'un zèbre. Quand on les a les deux à côté, ils ne se ressemblent absolument pas, quoi.
La légende dit qu'ils sont issus de femelles fondatrices qui auraient été introduites avec des poteries importées de Chine. Info ou intox ?
On n'en sait absolument rien. Il est arrivé probablement en 2004, sinon en 2003, très certainement dans la région de Marmande, mais en réalité, on n'a aucun point de départ avéré scientifiquement. Donc il y a eu des hypothèses de poterie, de céramique, de porcelaine de Chine, d'une chaîne de magasins de babioles. Là, voilà, il y a eu plusieurs hypothèses. Donc c'est vrai, c'est pas vrai, j'en sais rien. En tout cas, ça n'a jamais été vérifié scientifiquement et on n'a aucune preuve du point d'arrivée. On sait juste qu'évidemment, c'est une bestiole qui vient de plusieurs milliers de kilomètres et qui a été transportée par les systèmes commerciaux humains.
Quand est apparu notre nouveau congénère dans le pays?
Alors il était connu en Asie, hein. il y a plein de sous-espèces de ces Vespa velutina avec plein d'espèces de sous-espèces différentes en fonction de la région. Et on l'a vu pour la première fois en France en 2004. C'est pour ça qu'on pense que c'est 2004. Mais c'est possible qu'il soit arrivé un an avant et qu'il n'ait pas été repéré. Moi la première fois que je l'ai vu c'est en 2005 quand je bossais à l'INRA et je vous avoue que j'ai reçu ce truc-là. Quand on m'a demandé, le responsable du labo m'a dit « Tu sais ce que c'est ?»« Bah oui, c'est une guêpe, de toute façon, il n'y a pas de frelon de cette couleur, sûrement une guêpe. » Et je regarde, « Ah, il a les critères de détermination d'un frelon. »« Ah, mais ça ressemble pas du tout. » Donc j'étais vraiment dans une impasse. Donc j'ai contacté le muséum de Paris, qui quelques mois avant l'avait aussi découvert. Et donc j'ai pu avoir cette info. Sans ça, je me retrouvais devant une bestiole que je ne connaissais pas. Donc voilà, 2004-2005, c'est à partir du moment où on l'a vu s'installer et s'étendre.
Le frelon asiatique, un fléau pour les apiculteurs.
Oui, un frelon qui pose de sérieux problèmes à l'apiculture. Mais, et alors vraiment, c'est absolument pas pour dénigrer ou dévaloriser ou rabaisser l'impact du frelon à pattes jaunes, mais c'est un impact qui est aussi à relativiser avec les conditions dans lesquelles, le contexte dans lesquels vivent les abeilles, c'est-à-dire un contexte de pollution tous azimuts, un contexte de perte de ressources alimentaires et un contexte de stress environnemental extrêmement puissant. Et donc les frelons qui normalement chasse des mouches, des chenilles, voire des guêpes pour le frelon asiatique. On sait que quand il est en forêt dans son milieu original, il chasse plutôt des petites guêpes, donc les frelons sont des grosses guêpes. Et bien là, il va se rabattre sur un cheptel qui a été sélectionné, qui est stressé, qui peut facilement mettre en stress, et il vient se servir là-dedans au détriment des apiculteurs, en sachant que la cause principale, c'est pas ça, et que si les contextes étaient favorables aux abeilles, il y aurait probablement moins d'effets de stress du fait du manque de nourriture, du fait de la disponibilité d'autres proies, etc. Donc on est dans un contexte où tout a été organisé, entre guillemets, même involontairement, pour que le frelon à pattes jaunes vienne se servir dans les ruches, au même titre que si on enferme des agneaux dans un champ où il y a des loups, ben, il ne va pas courir après les mouflons, il va attraper les moutons qui finalement ont assez peu de capacité de réaction face à une faune sauvage. Bon, c'est un peu le cas aussi pour les abeilles mellifères, les abeilles de ruche, qui est une espèce domestique qu'on a sélectionnée, notamment en réduisant son agressivité pour pouvoir lui prendre du miel sans se faire piquer, sans trop se faire piquer.
Le frelon asiatique qualifié d'espèce exotique envahissante.
Alors, ben, comme toute espèce qui arrive dans un nouveau milieu, elle n'est pas connue. Donc elle n'est pas connue des naturalistes, mais elle n'est pas connue de la faune et de la flore, mais aussi des microbes, des bactéries, des champignons. Et en réalité, en quelques années, alors là, ça fait 2004 jusqu'à 2024, ça fait 20 ans qu'il est arrivé, c'est très très court, hein, c'est un claquement de doigts à l'échelle de l'évolution. Et ben, en 20 ans, on commence à voir, et déjà depuis quelques années, des oiseaux le prédater, d'autres insectes venir pondre dedans, le parasiter, comme ils peuvent parasiter d'autres hyménoptères sauvages, ou encore des maladies qui pourraient apparaître, des champignons, des bactéries qui pourraient s'installer et qui pourraient assurer un système de régulation. Parce qu'une nouvelle espèce, quand elle arrive, elle n'a pas d'antagoniste, donc elle se répand de façon extraordinaire. Et d'ailleurs, on voit la progression depuis 2004, département par département, c'est assez impressionnant. Et au bout de 20 ans, ou peut-être 30, hein, donc c'est peut-être encore 10 ans, très probablement qu'il y aura une forme de première réponse. Est-ce qu'elle suffira pour réduire le stress ou le niveau de stress des abeilles de ruche et donc convenir à l'apiculture? J'en ai aucune idée, on ne peut pas le savoir. Mais en tout cas, certes, les mesures qu'on met en œuvre, qui tentent à réduire les capacités d'accueil du frelon, peuvent être intéressantes. Il faut surtout le combiner avec l'augmentation significative de la réponse naturelle, c'est-à-dire l'augmentation des prédateurs naturels qu'on peut identifier facilement. Ils sont gros, hein, des oiseaux, d'autres, le frelon d'Europe, voilà, très bien. Mais aussi d'autres organismes qu'on ne voit pas, c'est-à-dire quand on a un foisonnement de vie, qu'on a des haies, des bosquets, des talus, des mares, des pierriers, bref, beaucoup de milieux naturels présents, abondants et diversifiés autour, on augmente la capacité d'accueil de micro-organismes qui pourraient, pour l'un ou pour l'autre, se retrouver être un antagoniste du frelon asiatique, du frelon à pattes jaunes. Mais le problème vient souvent du fait qu'on abaisse le niveau de réponse en régulant la nature et on se retrouve qu'avec des espèces banales, communes de partout, qui n'ont pas ou peu de capacité de réaction face à une nouvelle espèce.
Hugues Mouret est entomologiste, naturaliste, mais aussi botaniste. Il intervenait dans le cadre d'une conférence sur le thème « Frelon asiatique, que fait-on ?» Point d'interrogation à Chazé d'Azergues, à l'initiative de l'association Alterninfo. Alors que le nombre de médecins baisse fortement, l'accès aux soins pour tous et partout sur le territoire français est plus que jamais au cœur des préoccupations. Pour nous, le témoignage du docteur Marion Chauvet, médecin généraliste.
C'est des zones où il n'y a pas l'offre nécessaire à la population en termes d'accès aux soins, médecins particulièrement, médecins généralistes particulièrement, mais c'est aussi pour les autres professionnels de santé, même si on en parle souvent moins. C'est multifactoriel, hein, difficile d'avoir tous les éléments de pourquoi certaines zones sont fragiles et d'autres pas. Il y a aussi les changements de pratiques médicales, c'est-à-dire que le temps de travail n'est pas le même actuellement que pour les anciennes générations. Et même s'il n'y a jamais eu autant de médecins en France inscrits au Conseil de l'Ordre, le temps de travail n'est peut-être plus le même. Donc ça doit avoir une incidence. Que ce soit les femmes ou les hommes, hein, on entend souvent c'est la féminisation de la profession. Mais non, les jeunes médecins hommes ne travaillent plus de la même manière non plus. Et puis les changements aussi, le vieillissement de la population, donc qui fait qu'il n'y a pas le même besoin en santé de nos jours qu'il y a quelques dizaines d'années. De façon générale, après, ça, les défauts de médecins ne sont pas les mêmes. Et par exemple, vous pouvez trouver une zone où vous allez manquer de spécialistes et pas trop de généralistes, et à l'inverse des zones où vous allez manquer de généralistes et moins de spécialistes. Donc on ne peut pas faire une carte universelle entre guillemets de toutes les spécialités. Il faut prendre domaine par domaine pour regarder plus finement, en fait. Après, il y a déjà beaucoup de choses qui ont été essayées. On commence à se lancer depuis quelques années des améliorations, des tentatives d'amélioration. Alors parfois avec le problème qu'on ne va pas au bout de l'expérimentation et surtout on ne les évalue pas. Donc savoir savoir si ça marche ou si ça marche pas, c'est un peu compliqué. On parle beaucoup, par exemple, de tout ce qui aide à l'installation, d'incitatives financières, par exemple, que ce soit les départements, les régions, ou même maintenant, avec la nouvelle convention médicale, la sécurité sociale qui va donner des aides financières à l'installation en zone fragile. Vous avez, à notre sens, tout ce qui aide à l'organisation pour délivrer du temps médical, en fait. On passe énormément de temps à l'administratif. Et donc, pouvoir redonner du temps aux médecins pour qu'ils soignent les gens et qu'ils ne fassent pas forcément de l'administratif, ce serait quelque chose qui serait très utile. Alors ça, c'est plus compliqué parce que c'est trouver du temps de secrétariat. Il y a des expérimentations qui se font, par exemple, des mairies qui payent des secrétaires aux médecins pour que ça leur libère du temps, des choses comme ça qui peuvent se faire. On pourrait imaginer aussi donner certains actes à d'autres professions pour peu qu'elles soient rémunérées et que les choses soient possibles dans leur profession. Ça commence à se faire, par exemple, dans les maisons de santé, avec les protocoles entre médecins et autres professions, type infirmière, kiné, pour que des actes soient délégués. Ça fait déjà pas mal de choses. Après, il y a encore plein de choses à expérimenter, type la télémédecine, qui commence juste, mais qui pourraient être des solutions dans certaines zones, par exemple avec des robots, entre guillemets, de télémédecine, où il y a un stéthoscope, de quoi regarder les oreilles, et que ce soit des robots qui sont manipulés par des infirmières avec des médecins qui sont à distance. La robotique existe beaucoup, existe depuis très longtemps sur la chirurgie, par exemple, et maintenant la télémédecine, en tout cas en milieu libéral, se heurte à des problématiques de financement de ces expérimentations, puisque faire ces choses-là, mais ne pas être payé, il y a un moment où ça ne marche pas.
Trouver un médecin généraliste ressemble de plus en plus à un parcours du combattant. Chaque année, l'adresse recense le nombre de professionnels de santé grâce aux données issues du répertoire partagé des professionnels de santé RPPS et du répertoire Adeli, permettant ainsi d'évaluer l'offre de soins du territoire. Les chiffres de l'adresse ne permettent pas d'être optimiste au 1er janvier 2023. 99 457 médecins généralistes étaient en exercice en France, un nombre qui ne cesse de baisser depuis 2012. Une nouvelle fois donc une baisse d'effectifs, moins 2%.
L'info locale et régionale, c'est tous les jours sur le 100.9 et radio-calade.fr.
Calade, ma radio.